Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous. L'hymne espagnol entonné dimanche dans les rues de Barcelone par les manifestants favorables à l'unité du pays. Alors que la région catalane est désormais sous tutelle de Madrid jusqu'aux élections convoquées le 21 décembre prochain, tous les pays européens suivent de très près les derniers rebondissements de la crise entre le pouvoir central et les indépendantistes et prennent parfois parti, allant jusqu'à provoquer un incident diplomatique entre Madrid et Sofia. C'est une ancienne star du football bulgare, nommée consul honoraire en Espagne, qui en est à l'origine, Damien Vodeničarov.
Hristo Stoichkov est plus qu'un ancien footballeur. C'est une légende vivante du sport bulgare. Sa carrière est exemplaire, lauréat du soulier d'or en 1990, du ballon d'or en 1994 et buteur de la Coupe du Monde la même année ou encore champion d'Europe. On le surnomme El Pistolero, le tireur en Espagne, et Kamata, le poignard en Bulgarie. Et tout au long de cette carrière illustre, il n'a jamais mâché ses mots, au point où encore aujourd'hui il est tout aussi connu pour ses attaques éclairs que pour son tempérament explosif. Dans un entretien en 2007 par exemple, il disait « s'éclater lorsqu'on tape sur les journalistes ». En 2011, Stoichkov a été nommé consul honoraire de Bulgarie à Barcelone, où il a passé 7 ans de sa carrière professionnelle. Quelques jours après le référendum sur l'indépendance de la Catalogne, il fustigeait le gouvernement espagnol et la vice-présidente Soraya Sáenz de Santa Maria en particulier.
Son grand-père était franquiste, son père était franquiste, elle-même est franquiste et son fils est franquiste. Et c'est elle qui va nous dire ce qu'on a à faire ? Elle doit démissionner parce qu'on ne peut pas envoyer la police taper sur des innocents. Je me tourne vers le gouvernement espagnol et je lui dis « Vous êtes honteux ».
Malgré des excuses présentées plus tard sur le même plateau de télévision, Santa Maria a promis de porter plainte. Côté bulgare, le ministère des Affaires étrangères l'a destitué de son poste. La raison officielle, la communication entre Stoichkov et les autorités espagnoles est devenue trop compliquée. Pour sa part, Stoichkov reste fidèle à lui-même. Il ne s'inquiète ni de l'accident diplomatique qu'il a provoqué, ni de la réaction des médias, ni du procès qui semble l'attendre.
En France, on a beaucoup parlé des bus Macron, du nom de l'ancien ministre de l'économie, désormais président, qui en 2015 a libéralisé le secteur. Plus de 8 millions de personnes ont déjà emprunté les autocars de ces nouvelles compagnies privées. L'Autriche, elle aussi, a vu un retour en grâce des voyages en bus, alors même que le secteur, lui, n'a pas été libéralisé. Le reportage de Céline Béal commence au terminal de bus international de Vienne.
Le terminal international des bus de Vienne-Erdberg est tout sauf à la hauteur de la splendeur du reste de l'ancienne capitale impériale des Habsbourg. Coincé sous une bretelle d'autoroute, bruyant, odorant, il est plongé dans une perpétuelle grisaille de béton et les maigres équipements ne suffisent pas à l'accueil des nombreux passagers qui se pressent ici les vendredis soirs. On croise tout le monde à la gare routière, des hommes d'affaires et des hommes en pantoufles, des vieux et beaucoup de jeunes. Un groupe de jeunes filles déguste un dernier sandwich à la saucisse avant d'embarquer pour la capitale de la Slovaquie, qui est à environ une heure de route.
Nous allons tout ensemble faire la fête dans une autre ville.
Pourquoi Bratislava ?
Parce que nous sommes déjà allés deux fois à Budapest et que nous voulions voir quelque chose de nouveau.
Vicky et ses amis ont dépensé une quinzaine d'euros pour un aller-retour. Deux ou trois week-ends par an, elles font ainsi une escapade dans un pays voisin où les consommations sont aussi moins chères qu'en Autriche. Les jeunes fêtardes n'ont que peu de bagages. Sur le quai 12, par contre, c'est une autre histoire. Mariana attend le bus pour la Croatie, entourée de trois énormes sacs. Immigrée depuis 30 ans, elle est une habituée des lieux. Il lui faut 6 heures pour atteindre Slatina, mais c'est le seul moyen de voir ses proches.
J'étais là-bas il y a 2 semaines, mais aujourd'hui je n'envoie que des affaires à ma famille et j'y repars le 1er novembre. Ce qu'il y a à l'intérieur des sacs, un peu de chocolat et des affaires, des vêtements dont je n'ai plus besoin.
Mariana et les autres clients privilégient le bus en raison de son prix, mais aussi parce qu'on peut y transporter sans supplément de grandes quantités de bagages, à la différence du transport aérien. Et puis les compagnies desservent aussi les campagnes, ce qui n'est pas le cas des trains. Toutes ces raisons ont fait le succès du terminal de bus international. Un lieu inhospitalier, mais qui s'accorde bien à sa stratégie low cost.
L'implantation des autocars a changé plusieurs fois à Vienne, selon le degré de popularité ou de prestige qui était associé à cette forme de voyage.
Michael Tsinganel est architecte et historien. Il rappelle que jusqu'à l'entre-deux-guerres, l'autocar était réservé à une élite. À cette époque, les départs se faisaient depuis le centre-ville. Mais avec le développement de l'automobile, la bourgeoisie délaisse ce mode de transport collectif pour ses vacances à l'étranger. À cette même époque, l'Autriche commence à recruter des travailleurs turcs d'Europe du Sud et de l'Est qui arrivent, eux, en masse et en bus.
D'un côté, c'était bien pour les compagnies de cars, parce que cela représentait à certaines périodes de gros chiffres d'affaires. Mais de l'autre côté, cela a porté préjudice à l'image du voyage en car.
Avec la chute du rideau de fer, puis les guerres dans les Balkans dans les années 90-2000, des réfugiés arrivent en Autriche entassés dans de vieux autobus, ce qui finit de sceller l'image négative de ce moyen de transport. En centre-ville, la gare routière doit céder son emplacement à un centre commercial, alors que naît, à la périphérie, la gare routière d'Erdberg. Petit à petit, dans le reste de l'Europe de l'Ouest, des États comme la France ou l'Allemagne ouvrent leur secteur des transports à la concurrence. En Autriche, des compagnies privées affrétaient déjà des autocars depuis longtemps, mais elles sont désormais concurrencées aussi sur leur propre sol par des compagnies du voisin allemand, comme Flixbus. Enfin, les nouvelles technologies contribuent efficacement au renouveau du secteur.
Cette évolution a ensuite été accentuée par le boom des smartphones. Aujourd'hui, le leader sur le marché des voyages en bus, chic et hype, s'appelle Flixbus. En réalité, ce n'est pas une compagnie de bus, mais une plateforme de réservation qui a réussi à s'imposer en mettant sur le marché l'application en ligne la plus cool.
Grâce à cette application, les voyageurs peuvent non seulement réserver une place facilement, mais elle les tient également au courant des retards et les aide à localiser leur arrêt. Et puis, plus de tickets en papier qui s'égarent dans une poche. Les billets numériques sont maintenant enregistrés directement dans les smartphones. Et les engins, eux aussi, ont été modernisés. Avec Internet et prises électriques à tous les sièges, ils attirent un nouveau public.
Je dirais qu'il y a aujourd'hui deux groupes de voyageurs en bus. Ceux qui veulent se rendre au plus vite dans une ville, presque sans bagages, et qui sont plongés dans leur appareil électronique pendant tout le trajet. Et puis les autres qui vont dans leur pays d'origine, dans des régions plus pauvres, et qui remplissent le ventre du bus de cadeaux de toutes sortes.
Den ganzen Busbauch vollrammeln mit Geschenken.
Tous pourraient bien ne plus se côtoyer longtemps sur le pavé gris du terminal de Erdberg. Face au regain de popularité du voyage en car, la mairie de Vienne réfléchit à l'ouverture d'une nouvelle gare routière.
À plusieurs reprises dans Accent d'Europe, nous avons parlé de la très difficile situation des réfugiés en Serbie, vivant dans des squats enfumés, empêchés de poursuivre leur route vers l'ouest de l'Europe. Pour les plus jeunes, la rentrée scolaire a quand même eu lieu, il y a un mois, en même temps que les Serbes, mais pas au même endroit. Écoutez le reportage de Philippe Bertinchamp dans une école spécialisée de la banlieue de Belgrade, où des jeunes Afghans, Irakiens et Iraniens étudient avec de jeunes Roms serbes.
Yasem Mohammad.
Je m'appelle Mohammad, enchanté. Mohammad a 16 ans, il est arrivé d'Afghanistan en Serbie il y a 9 mois avec sa famille. Ce lundi d'octobre, comme tous les jours depuis la rentrée scolaire en Serbie, il y a un mois, il se rend en bus à l'école Branko Pešić à Zemun, dans la banlieue de Belgrade, la capitale serbe. Lui et sa famille sont provisoirement logés au camp de réfugiés de Krnjača. Ils ont déposé leur demande d'asile et espèrent pouvoir s'installer pour de bon dans le pays. Nenad Čirić est le directeur de l'établissement.
Cette année, nous avons déjà 47 élèves inscrits. Mais jusqu'à présent, seule une vingtaine se rendent à l'école. D'autres viendront plus tard, le temps d'organiser les transports en commun.
L'école Branko Pešić dispose déjà d'une solide expérience. Dans le passé, cet établissement spécialisé accueillait des Roms réadmis, c'est-à-dire expulsés des États membres de l'Union européenne, Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, où ils avaient grandi et pour qui le serbe était une langue étrangère. Le programme de scolarisation des réfugiés a débuté, quant à lui, en décembre 2016.
Fin décembre, nous avons reçu 21 jeunes réfugiés du camp de Karniacha, 3 filles et 18 garçons. Les filles venaient du Ghana et du Cameroun et les garçons d'Afghanistan. Tous les élèves de ce groupe étaient sans famille et donc placés sous la tutelle du Centre des Affaires Sociales. À la fin de l'année, en juin, on accueillait 75 élèves. 35 ont terminé leur cursus.
Chaque jour, les élèves ont droit à 2 heures de serbe et 2 heures de cours généraux. Dans la classe de langue serbe, on compte entre 25 et 30 jeunes âgés de 16 à 18 ans, filles et garçons mélangés. Des réfugiés d'Afghanistan, d'Iran et d'Irak, mais aussi des Roms de Serbie et du Kosovo qui vivent dans les bidonvilles de Zemun et dont la langue maternelle est le romani ou l'albanais. La majorité est de confession musulmane. Parmi les réfugiés du premier groupe arrivés en décembre dernier, certains ont suffisamment appris le serbe pour comprendre tout ce qu'on leur dit. Ivana Milivojevic est assistante pédagogique. De jour en jour, s'enthousiasme-t-elle, les réfugiés font des progrès épatants.
Nous souhaitons que ces jeunes et les nôtres étudient ensemble et qu'ensuite ils aillent ensemble à l'école secondaire et à la faculté. Et s'ils veulent s'installer ici, que cela leur soit agréable et qu'ils restent en Serbie.
Ce matin-là, des animateurs de la fondation SOS Dečja Sela Srbija, une association d'aide aux enfants défavorisés, organisent des exercices d'immersion en serbe. Dans un joyeux brouhaha, les élèves se présentent et se décrivent en quelques mots qu'ils notent d'abord sur un papier de couleur qu'ils auront découpé à l'aide de ciseaux. Des traducteurs de l'ONG International Rescue Committee sont venus prêter main forte. Nena Ćirić rappelle les difficultés scolaires de ces jeunes et le chemin parcouru dans leur apprentissage depuis leur arrivée en Serbie.
Beaucoup d'entre eux ne sont jamais allés à l'école. Parmi la vingtaine d'élèves du premier groupe, 8 n'avaient jamais été scolarisés. Et quand ils ont appris à écrire pour la première fois, c'était en cyrillique. Il y en a même qui n'avaient jamais entendu parler des 4 points cardinaux, et pourtant ils avaient parcouru 5000 km à pied. Quant à ceux qui avaient déjà été scolarisés, ils ignoraient tout de la physique, de la chimie ou de la biologie. Ce qu'ils ont appris, ils l'ont appris ici, avec nous.
Selon le commissariat serbe aux réfugiés, quelques 700 jeunes demandeurs d'asile devraient être scolarisés cette année. Plus de 250 d'entre eux fréquentent déjà 27 écoles dans le pays. L'expérience en est à ses débuts, mais elle porte ses fruits et devrait se prolonger d'année en année, touchant de plus en plus de jeunes au fur et à mesure que leur statut administratif sera réglé, à condition, bien sûr, qu'ils décident de rester en Serbie.
Livre.
Ces quelques jeunes réfugiés rencontrés sur les bancs d'une école serbe font partie du 1,5 million de personnes à avoir demandé l'asile en Europe en 2015. Pour le moment, l'Union européenne semble avoir oublié les 3 axes de l'accord d'Amsterdam signé en 2001 pour l'accueil des étrangers. Seul le dernier axe, la chasse aux étrangers, semble primer désormais. Ce que confirme une étude de terrain, fruit d'une collaboration entre 14 chercheurs, sociologues, anthropologues ou historiens. Il signe un ouvrage collectif de Lesbos à Calais, Comment l'Europe fabrique les camps. Catherine Roland a rencontré Yasmine Bouaga, l'une des coordinatrices de l'ouvrage. La chercheuse a d'abord rappelé comment se formaient ces camps.
C'est parce que les frontières sont fermées et parce qu'il y a une difficulté à accueillir, à intégrer les personnes en mobilité que ces camps apparaissent, soit des camps de la précarité, comme on a vu à Calais, à Idoménie, soit des camps organisés pour contrôler les populations.
Alors effectivement, l'Europe est devenue une forteresse, encore plus avec les accords de Schengen. Avec la crise des migrants, donc il y a eu une fermeture des frontières. Est-ce que la formation des camps, finalement, c'est intentionnel ou non? Est-ce que les États l'ont voulu?
Alors, je ne pense pas dans la mesure où la formation des camps crée aussi des regroupements qui sont problématiques pour les États, parce que ce sont des regroupements qui peuvent aussi permettre l'action collective. Et on l'a vu à Calais, en fait, l'État n'a pas vraiment cherché à avoir tant de monde regroupé sur un bidonville qu'il ne maîtrisait pas du tout. Il ne maîtrisait pas les arrivées, le nombre de personnes qui pouvaient être sur place et la gouvernance du lieu. Et en plus, ça rendait très très visible les défaillances, les carences de l'État dans le secours le plus basique aux populations. La situation d'hygiène était scandaleuse, il n'y avait aucune protection pour les mineurs. Et donc le gouvernement français a cherché à dissoudre ce lieu, à le faire déguerpir et à privilégier plutôt un éparpillement dans des centres qui sont censés favoriser une meilleure intégration. Ces centres d'accueil et d'orientation sont censés permettre aux personnes de pouvoir changer leur projet migratoire, envisager une demande d'asile en France. Donc ça, c'est un volet plutôt humanitaire d'accueil. Mais en pratique, ce sont aussi des lieux dans lesquels on peut trier entre ceux qui sont éligibles à l'asile et ceux qui ne le sont pas, et aussi mettre en place cette politique européenne très restrictive qui prévoit que c'est le premier pays d'accueil dans l'Union européenne qui est responsable de la demande d'asile, et donc la France peut se décharger sur les pays d'entrée comme l'Italie ou les autres pays par lesquels les migrants sont passés.
Sauf que le tri est très long, c'est le cas en France, c'est le cas en Grèce, c'est le cas aussi en Italie où on a créé ces fameux hotspots qui sont censés effectivement trier les bons et les mauvais migrants. Et en fait, comme le provisoire dure très très longtemps, d'autres camps se créent.
L'idée des hotspots, c'est une idée qui, sur le papier, pouvait paraître protectrice du droit. En pratique, ça sert comme lieu d'enfermement où les personnes vont être regroupées parfois pendant des mois. C'est une privation de liberté qui va durer, qui est en dehors des conceptions ordinaires du droit, puisque la privation de liberté, normalement, n'est prévue que comme sanction pénale. Alors parfois, dans ces hotspots qui sont notamment sur les îles italiennes ou grecques, les grillages sont pas tout à fait fermés, donc il peut y avoir des circulations, mais comme ce sont aussi des îles, il est difficile d'en sortir, et des campements précaires aussi se forment autour.
Oui, c'est ce qu'on constate à travers cet ouvrage, c'est que finalement, les politiques migratoires européennes sont très violentes.
Cette obsession de la dissuasion et de la création d'une forteresse pour protéger l'Europe a pour conséquence des drames humains dont on a vu les images des personnes noyées en Méditerranée, mais il y a aussi les personnes qui meurent dans le tunnel sous la Manche, en essayant de monter dans les camions. Et ces frontières-là ont un coût humain qui est considérable et sur lequel il faudrait vraiment réfléchir pour essayer de comprendre ce que c'est que cette hypocrisie morale de l'Europe.
Alors, quelle serait la solution alternative ? Collectivement, il y a une ou deux propositions, en tout cas.
Nous, collectivement, on s'est intéressé au rapport entre les villes et les réfugiés. Et ce qu'on a observé, c'était que dans les campements informels, donc qui ne sont pas organisés comme des lieux de privation de liberté par les États, mais qui sont plutôt des campements de la précarité des migrants, se mettent en place des solidarités très très fortes. Les citoyens vont venir apporter leur aide, soit dans des associations, soit même de façon tout à fait spontanée, parce qu'ils sont des riverains, on l'a vu beaucoup sur les campements parisiens. Et là, des relations se nouent. Et ces relations-là, elles permettent d'envisager d'autres formes de l'accueil, d'autres formes d'hospitalité, qui se tissent au niveau citoyen. Et ça, ce sont des très belles expériences aussi sur lesquelles on voulait revenir pour donner aussi un peu d'espoir dans ce monde qui peut être dur.
Yasmine Boaga, l'une des coordinatrices de l'ouvrage « De Lesbos à Calais, comment l'Europe fabrique les camps » avec Catherine Roland. Ludivine Amado assurait la réalisation et la mise en onde de cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain dès 12h40 en universel. Nous parlerons entre autres des très nombreux procès menés en Turquie contre les journalistes et activistes accusés de terrorisme.